Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Nous ne négligeons rien. Et c'est parce que nous ne voulons rien négliger et tout traiter que nous nous trouvons handicapés. Et donc je demande à ceux qui m'écoutent que théoriquement, pour le bien de cette conférence, il faut que le Congo connaisse une trêve sociale, c'est-à-dire les contentieux ou les grèves devaient ne pas avoir lieu jusqu'à la fin de la conférence. Et puis finalement, nous sommes là pourquoi ? Si la CEC a tout fait, et vous le dites vous-même, pour que ça change, mais nous sommes au travail pour que ça change, comment donc vous allez mettre d'autres freins pour arrêter la marche de cette conférence ?
En ce début d'année 1991, le Congo vit une expérience inédite. Une expérience totalement inimaginable quelques mois plus tôt. Sous la pression de Paris et de la rue, dans le climat de la chute du communisme dont le point d'orgue a été la chute du mur de Berlin, le président Denis Sassou Nguesso a été contraint d'accepter le principe de la conférence nationale souveraine. Une conférence qui ressemble à une grande thérapie de groupe. Pascal Lissouba, comme quasiment tous les leaders politiques et de la société civile, y est invité. Il fait son grand retour après 11 ans d'absence. Il revient en tant que ancien Premier ministre.
Radio Forum, FM 105.8. Forum. Forum, FM.
Bon, chers compatriotes congolais, monsieur le conférencier, je ne suis pas l'assassin de qui que ce soit. Encore moins d'aussi éminent cadre. Par contre, j'affirme que les coupables sont connus, vivants. Aujourd'hui, certains sont dans cette salle.
Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Pascal Lissouba.
Je suis ingénieur d'agriculture et en même temps, comme vous l'avez indiqué, biologiste, spécialisé plutôt en génétique.
Mais s'il revient au pays en ce mois de février 1991, c'est en tant qu'ancien Premier ministre. Au cours de ce deuxième mois de la Conférence nationale souveraine qui réunit plus de 1200 participants, le prestige de Pascal Lissouba va être écorné lors des discussions sur ce sujet en particulier. Les crimes, les assassinats des trois fonctionnaires, Joseph Poibou, le président de la Cour suprême, Lazare Matsokota, le procureur de la République, et Anselme Massouémé, le directeur de l'Agence congolaise de l'information. Les témoignages en plénière et les auditions de la commission mettent en lumière la responsabilité du groupe de Mpila dont il était l'un des principaux animateurs dans ce triple meurtre, mais sa culpabilité n'a jamais été démontrée. Juin 1991. Après plusieurs mois de palabres et de déballages, c'est la fin de la Conférence nationale souveraine. Il y a été décidé de procéder à l'instauration d'une démocratie pluraliste par une nouvelle constitution dont elle donne les principes. Pascal Lissouba présente sa candidature à l'élection du Premier ministre de la Transition démocratique par les délégués à la Conférence nationale. 18 candidats en lice pour cette fonction qui a été pourvue des plus grands pouvoirs par l'acte fondamental. Parmi eux, on retrouve Louis-Sylvain Goma, Édouard Ebuka Babakas, Mathias Nzon, André Milongo, Jean-Martin Bemba, Samuel Badinga et Kondi Akala, Gabriel Bokilo et Levi Makani.
Il va y avoir des élections. Et ces élections vont être très dures, déjà que pour un poste ministériel de Premier ministre qui va durer peut-être un an. Regardez la tension, déjà regardez les conflits que cela génère. Qu'est-ce que ce sera lorsqu'il s'agira de la magistrature suprême ?
En effet, la tension est à son comble. Pascal Lissouba est en tête aux deux premiers tours, mais il va finalement être battu au quatrième tour par André Milongo. 454 voix contre 419.
On a des tribus et souvent quand un responsable vient au pouvoir, il est entouré d'un cocon, d'une espèce de tour d'ivoire qui l'empêche de communiquer avec l'extérieur, en fait avec le peuple, le vrai peuple. Et moi je ne veux pas être justement prisonnier de cela.
Qu'est-ce que vous allez faire en priorité ?
D'abord, comme j'ai dit dans mon discours, mettre de l'ordre dans l'administration générale et principalement dans l'administration financière. Je pense qu'on en a besoin. On fera l'impossible. Les relations, effectivement, j'en ai, aussi bien avec les pays occidentaux, qu'avec les organisations internationales. Comme j'ai séjourné 15 ans dans ces organisations, j'ai pas mal de relations.
André Milongo est donc le premier ministre de la transition. Le chef de l'État, bien que dépouillé de ses pouvoirs, reste Denis Sassou Nguesso. Pascal Lissouba, qui avait pris ses distances pendant 11 ans à la faveur de la Conférence nationale souveraine, a de nouveau été frappé par le virus de la politique. Il opère donc son grand retour. Dès le mois de juillet 1991, il fonde son propre parti, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, l'UPADS. La nouvelle formation politique a intégré plusieurs partis qui ont participé à la Conférence nationale et rassemble de nombreuses figures de la vie politique nationale. Simon-Pierre Kikunga-Ngots, Martin Berry, Guila Mugunga-Nkombo, Augustin Poignet, Christophe Mukweke, Clément Mwamba, Victor Tamba-Tamba. Ils sont nombreux à l'avoir rejoint. Lissouba a également convaincu une bonne partie de la jeune classe politique de se joindre à lui dans son action. Et pour être tout à fait disponible pour mener la bataille, il remonte à Paris pour prendre sa retraite à l'UNESCO. Février 1992, il est de retour à Brazzaville. Son état-major lui a concocté une arrivée triomphale, puisqu'une foule considérable de militants et de sympathisants de l'UPADS l'accueille à l'aéroport de Mayamaya et l'escorte jusqu'au palais des congrès, où il tient son premier meeting. « Je suis venu pour vous servir, et non pas pour me servir », lance-t-il. C'est le début du marathon politique à travers le pays. En quelques mois, l'UPADS va parvenir à fédérer la majorité des populations issues des régions de la Bouenza, de la Lekoumou et du Niari. Pour désigner cette intégration politique, les Congolais créent l'acronyme Nibolek. Mais la popularité de Pascal Lissouba ne s'étend pas seulement sur ces trois régions. L'ancien Premier ministre draine une dynamique populaire dans le Kwilu, les plateaux et surtout la Sangha. Ce dimanche 15 mars 1992, la grande majorité de la population des deux principales villes du pays, Brazzaville, capitale politique, et Pointe-aux-Noires, la capitale économique, se presse dans les bureaux de vote. Dès le matin, certains électeurs dépourvus de cartes font même la queue sous le soleil devant les différents centres dans l'espoir de pouvoir participer au premier scrutin libre depuis la fin de la présidence d'Alphonse Massamba Déba en 1968. Il s'agit d'entériner la nouvelle constitution adoptée en décembre 1991 par le Conseil supérieur de la République. Dans une atmosphère de liesse populaire, les Congolais se rendent donc massivement aux urnes. On parle d'un taux de participation de 70%. Le vote se déroule paisiblement sur toute l'étendue du territoire national. Quelques jours plus tard, les résultats sont proclamés. Le oui l'emporte, sans surprise, à 96%. Les élections locales et municipales du 3 mai qui suivent voient le parti de Pascal Lissouba réaliser un raz-de-marée dans les régions de la Bouenza, de la Lekoumou et du Niari. Il y emporte la quasi-totalité des sièges en jeu. Ayant également obtenu de bons scores à Brazzaville et Pointe-Noire, l'UPADS s'impose comme la première force politique du pays. Aux élections sénatoriales, l'UPADS confirme sa position de première force politique en remportant 23 des 60 sièges à pourvoir devant le MCTDI qui en obtient seulement 13. Le texte constitutionnel adopté en cette année 1992 marque un tournant dans l'histoire du Congo. La sixième constitution du Congo-Brazzaville instaure un régime semi-présidentiel inspiré de la 5e République française. Le pays reprend ses symboles post-indépendance. La République populaire du Congo est rebaptisée la République du Congo, tout simplement. Le Congo troque son drapeau rouge frappé du marteau et de la faucille pour son drapeau vert, jaune, rouge originel et change son hymne national. Les trois glorieuses, l'hymne de la période marxiste, cèdent la place à la congolaise, l'hymne national post-indépendance. La nouvelle loi fondamentale comporte des verrous juridiques. dans son article 178, excluant notamment la possibilité de réviser la Constitution pour toucher à la limitation des mandats présidentiels, 2 fois 7 ans, à la forme républicaine de l'État ou encore la réduction ou l'abolition des droits et libertés fondamentaux. Des dispositions jugées essentielles afin d'empêcher tout retour au régime politique antérieur. La page de la période rouge est définitivement tournée, du moins on le pense à ce moment-là. La première alerte va arriver dès le mois de mai. Le scrutin suivant, les élections municipales organisées au mois de mai 1992, laissent apparaître de profondes divisions du corps électoral sur une base régionaliste. L'UPADS du Pascal Lissouba l'emporte dans le Nibolek. L'URDPS arrive en tête à Pointe-Noire et le MCCDI s'impose dans la région du Pôle. Entaché de nouvelles irrégularités, le scrutin local ouvre la voie à une montée des tensions politiques. Le 19 mai, plusieurs responsables des partis vont jusqu'à appeler à la guerre civile sur les ondes de la radio. Le changement de gouvernement intervient le 21 mai et permet d'éviter le spectre de la guerre civile, mais pour quelque temps seulement. En ce début du mois d'août 1992, les Congolais vivent au rythme de la campagne électorale, la présidentielle. C'est la première élection démocratique depuis l'instauration du multipartisme en 1991. C'est également la première fois depuis 1963 qu'une élection ne se déroule pas en congrès interne d'un parti politique. 5 grands candidats, 5 poids lourds, sont en lice. Pascal Lissouba, André Milongo, Bernard Kolela, Joachim Yombi Opango et Denis Sassou Nguesso. À l'approche du scrutin, Pascal Lissouba, qui a nommé Marc Mapingu directeur de sa campagne, apparaît comme le favori. Il occupe efficacement l'espace médiatique et ne lésine pas sur les promesses de campagne, s'engageant à faire du Congo une petite Suisse en 5 ans. Les grands axes de son programme sont la modernisation de l'État en intégrant les nouvelles technologies, la construction d'un vaste réseau de communication, comme les autoroutes à péage entre Brazzaville et Pointe-Noire notamment, la relance de l'agriculture, la libéralisation de l'économie et l'industrialisation du pays. Il apparaît de plus en plus crédible face aux autres candidats. Le 2 août, au premier tour de l'élection présidentielle, il arrive sans surprise en tête, avec 282 000 voix, soit 35,89%. Bernard Kolela, qui a obtenu 20,32%, va être son adversaire au second tour. Le président Denis Sassou Nguesso arrive en troisième position avec seulement 16,87% des voix. Il est en position d'arbitre pour le second tour. C'est l'heure des grandes négociations. Pascal Lissouba va obtenir le ralliement de quelques battus du premier tour, notamment Joachim Yombi Opango, David Charles Ganao, Alphonse Souchlati Poati. Le 11 août 1992, le Parti Congolais du Travail et l'UPADS de Pascal Lissouba signent un accord pour constituer le socle d'une majorité parlementaire stable, pour gouverner ensemble quel que soit le résultat de la présidentielle et faire campagne commune pour l'élection de Pascal Lissouba au second tour de la présidentielle. Pourquoi Henri Lopez, vous qui êtes un ancien Premier ministre du Congo et qui viviez tout ça de l'intérieur, Denis Sassou Nguesso choisit-il à ce moment-là de soutenir plutôt Pascal Lissouba?
Et parce que Kolela était une personnalité qui ne pouvait pas être acceptée par le PCT. Kolela avait déclaré, quand il avait été, que même condamné à mort, il ne serait pas convaincu aux vertus du socialisme scientifique. Donc entre Lissouba et un Kolela, il y avait pas photo.
Le second tour a lieu le 16 août 1992. Les résultats sont proclamés le 20. Pascal Lissouba dévance largement Bernard Kolela avec 61,32% de voix contre 38,68% pour Bernard Kolela. Pascal Lissouba est arrivé en tête dans 7 régions sur 10. Kolela ne l'a battu qu'à Brazzaville et dans le Pôle. Au Kwilu, les deux candidats sont au coude à coude. Le recours de Kolela auprès de la Cour suprême pour fraude généralisée et frappante de la part de son adversaire est rejeté. Pascal Lissouba devient le 6e président de la République du Congo.
J'ai fait une campagne, j'ai présenté mon programme et je pense l'avoir fait avec beaucoup de détermination et je crois avoir été assez convaincant.
Mais près de 62% des voix, ça veut dire que vous avez récupéré pas mal en fait des voix de l'ex-parti unique.
Oui, mais ne pense pas être parti de zéro. Même dans les partis du Nord où le parti unique avait affiché, disons, sa supériorité. Mon parti a toujours été en seconde position, même dans ces régions-là. Donc je ne suis pas surpris, puisque je suis connu dans ces régions. Et ce n'est pas d'hier que j'ai commencé mon travail à la fois de technicien, de politique dans ces régions. Je suis assez bien connu et je ne suis pas surpris du fait que, disons, sans beaucoup de difficultés, ils ont porté leur suffrage sur mon nom et sur mon programme.
Denis Sassou Nguesso est à cette date-là le premier président à être battu lors d'une élection.
La transition s'achève comme nous l'avons souhaité, sans violence, sans déchirement. Elle s'achève dans le calme et dans une atmosphère de dignité qui reflète la maturité de notre peuple. Compte tenu du contexte africain d'aujourd'hui, c'est là une belle victoire pour la République du Congo.
Pascal Lissouba devient donc le sixième président de la République du Congo. L'investiture du président a lieu le 31 août 1992.
Je prie très respectueusement de bien vouloir prêter le serment prévu par la Constitution du 15 mars 1992 en son article 72.
Devant la nation et le peuple congolais, seul détenteur de la souveraineté, moi, Lissouba Pascal, président de la République, je jure solennellement de respecter et de défendre la constitution et la forme républicaine de l'État.
La passation de pouvoir avec le général Denis Sassou Nguesso se passe dans une excellente ambiance. Mais le nouveau président de la République doit faire face à une situation économique calamiteuse. Le 1er septembre 1992, il nomme Stéphane Maurice Bongo Nuara au poste de Premier ministre. Mais il doit faire face à un souci de taille, à une impasse dans la formation du gouvernement. La composition de l'équipe, forte de 27 membres, est finalement publiée dans la nuit du 7 au 8 septembre. La plupart des poids lourds de l'UPADS sont partis en font partie. Le général Golo est ministre de la Défense. Trois membres du Parti congolais du travail y figurent. Henri Okemba à l'agriculture, Grégoire Lefouéba à l'éducation nationale et Isidore Mvouba au commerce. Dans la journée du 8, Nouma Zalaï, le secrétaire général du Parti congolais du travail de Denis Sassou Nguesso, fait une communication de presse et déclare caduque l'accord UPADS-PCT. Joseph Wabari Mariotti, ancien ministre de la Justice.
Le PCT exigeait, je crois, 7 ministres. Bon, le président Lissouba dans la conception de son gouvernement, dans le réajustement des équilibres au gouvernement, dans la composition de forces qui l'ont soutenu pour essayer de satisfaire les unes et les autres, n'a pas pu donner ce ministère au président, au camp du président Sassou. Bon, l'accord a volé un éclat, comme vous le dites. Lissouba n'ayant proposé que 7 postes, le président Sassou n'a pas pu se satisfaire de ces 3 postes. L'accord vole en éclat.
À peine élu, le président Pascal Lissouba doit gérer cette crise dans la formation de son gouvernement. Les choses commencent mal, très mal. Surtout que dans son camp même, dans le camp présidentiel, dans la constitution du gouvernement, il a également fait des déçus. La région de la Bouenza s'est taillée la part du lion avec ses 7 ministres. Mberi à l'intérieur, Mungunga à l'industrie, Mouyabi à la fonction publique, Bunkulu aux affaires étrangères, Ngimbi à la formation professionnelle, Limpu Masala à la coopération et le colonel Damba chargé de la coordination militaire. Alors que la Lekoumou n'en a qu'un seul de ministre, Clément Mwamba aux finances, et le Niari, pas de ministre du tout. Cependant, le gouvernement est constitué de ressortissants de tout le pays. Mais avec la rupture de l'accord avec le Parti congolais du travail de Sassou Nguesso, comment va-t-il manœuvrer pour se sortir de ce mauvais pas, pour vraiment prendre la main? Les tensions ne font que commencer, comme nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Pascal Lissouba. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Les archives d'Afrique, à la Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
pleine campagne, j'ai présenté mon programme et je pense l'avoir fait avec beaucoup de détermination et je crois avoir été assez convaincant.
Élu à la tête de la République du Congo au terme du premier scrutin démocratique initié par la Conférence nationale souveraine, Pascal Lissouba, après la passation du pouvoir avec Denis Sassou Nguesso, doit maintenant former son gouvernement. Il nomme Stéphane Maurice Bongo Nouara au poste de Premier ministre.
Par la splendide leçon de démocratie que le peuple congolais vient de donner à la face du monde, notre peuple, toujours fort et généreux, a tant voulu sa démocratie qu'il lui a cédé sa propre sécurité morale et son propre confort. Comment expliquer autrement ? 3 à 5 mois d'attente de salaire dans le calme et la sérénité, si ce n'est la volonté inébranlable d'un peuple mûr de n'offrir à personne le moindre prétexte pour donner un coup d'arrêt au processus démocratique. C'est pour cela qu'un effort sera fait pour que le mois d'août, déjà largement compromis, soit payé au personnel de la fonction publique.
Une promesse qui réjouit l'ensemble des Congolais qui tirent le diable par la queue. 5 mois d'arriéré de salaire. Mais le nouveau président doit faire face à un souci de taille, à une impasse dans la formation du gouvernement. Il a passé un accord avec le camp du chef de l'État sortant, le PCT, le Parti Congolais du Travail. Un accord qu'il éprouve un peu de mal à honorer. Loïc Leflore-Prigent, vous étiez, en tant que président de la compagnie ELF, un témoin privilégié de cet accord entre Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso.
À cette époque, Omar Bongo dit, qui a toujours une affection particulière pour Lissouba, dit soit Sassou Nguesso réussit son coup à devenir président, mais j'en doute puisque c'est l'homme d'Emboshi et du passé marxiste un peu marqué, donc il va avoir des difficultés. Et moi, je pense que Pascal Lissouba est vraiment ce qui permet de revenir à un Congo uni et d'être un bon président. Mais comme je suis très lié à Sassou Nguesso, je vais essayer de faire une alliance entre Pascal Lissouba et Sassou Nguesso, et c'est lui qui constitue cette alliance. Non pas béni, mais suscité par Omar Bongo. Hein, soyons clairs.
Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Pascal Lissouba.
Devant la nation et le peuple congolais, seul détenteur de la souveraineté, moi, Lissouba Pascal, président de la République, je jure solennellement de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'État.
Une fois la prestation de serment faite, il faut passer aux choses sérieuses. Dès le 1er septembre 1992, Pascal Lissouba nomme Stéphane Maurice Bongo Nouara au poste de Premier ministre. Mais il doit faire face à un souci de taille, à une impasse dans la formation du gouvernement. La composition de l'équipe gouvernementale, forte de 27 membres, est finalement publiée dans la nuit du 7 au 8 septembre. La plupart des poids lourds de l'UPADS en font partie. Le général N'Golo est ministre de la Défense. 3 membres du Parti Congolais du Travail y figurent. Henri Okemba à l'agriculture, Grégoire Le Fouéba à l'éducation nationale et Isidore Mvouba au commerce. Dans la journée du 8, Nouma Zalaï, le secrétaire général du Parti Congolais du Travail, fait une communication de presse et déclare caduque l'accord UPADS-PCT. 2 des points de l'accord du 11 août n'ayant pas été respectés. Le Parti Congolais du Travail, qui prétendait à 7 portefeuilles ministériels, dénonce le fait que la composition du gouvernement ait été publiée avant la conclusion des négociations qui étaient en cours. Dans la foulée, Isidore Mvouba, un des 3 ministres du Parti Congolais du Travail, du gouvernement Bongo Nouara, se retire. Joseph Wabari Mariotti, ancien ministre de la Justice du Congo.
Le PCT exigeait, je crois, 7 ministres. Bon, le président Lissouba dans la conception de son gouvernement, dans le réajustement des équilibres au gouvernement, dans la composition de forces qui l'ont soutenu pour essayer de satisfaire les unes et les autres, n'a pas pu donner 7 ministères au président, au camp du président Sassou. Bon, l'accord a volé un éclat, comme vous le dites. Lissouba n'ayant proposé que 7 postes, le président Sassou n'a pas pu se satisfaire de ces 3 postes. L'accord vole en éclat.
L'accord vole en éclat. Et ce n'est pas tout. L'élection du président de l'Assemblée nationale esquisse un renversement d'alliance. André Mouélé du PCT est élu aux dépens d'Ange-Édouard Pongui, apparenté UPADS de Pascal Lissouba. L'élection d'Augustin Poignet à la présidence du Sénat se passe sans problème, le camp de Lissouba détenant la majorité absolue dans la Chambre haute. Joseph Wabare Mariotti, ancien ministre de la Justice.
Et quand la voile voit un éclat, le président Sassou, il rejoint le camp du président Colella. D'où le point de départ de la crise dans le pays qui passe par les événements de 1993.
Le 30 septembre, l'URDR, le PCT et cinq autres partis de moindre envergure concluent un accord de gouvernement. La nouvelle alliance est présentée par ses promoteurs comme le socle de l'unité nationale. Surtout, elle consacre un changement de majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Pascal Lissouba.
J'ai fait serment de respecter la Constitution. Ce n'est pas moi qui l'ai violée. J'ai usé de tout ce qu'on pouvait user pour amener mes compatriotes à se convaincre d'un consensus pour travailler ensemble. Réponse, barricade, coup de fusil, cocktail Molotov. Mais M. Colella est parti lié avec le PCT. Ce sont deux ethnies qui se sont affrontées pendant des années. Et le PCT était au pouvoir. Moi, j'étais au bord. J'ai compté les coups. Il y a eu une bonne demi-douzaine de coups d'État. Ces coups d'État étaient fomentés justement. L'un d'entre eux ou deux d'entre eux ont été fomentés par le même Colella contre le PCT. Brusquement, les voilà ensemble. Voilà l'étonnement. Mais je suis prêt à me battre.
Malgré le vote de la motion de défiance, Pascal Lissouba ne met pas fin aux fonctions du gouvernement Bongo Noira pour nommer un premier ministre dans la nouvelle majorité comme le stipule l'article 75 de la Constitution. La coalition de l'opposition tient plusieurs meetings pour réclamer la démission du gouvernement. Le débat politique s'enlise alors dans une querelle byzantine sur l'interprétation de la Constitution. Le 31 octobre, la censure contre le gouvernement Bongo Noir est votée par la nouvelle majorité alors que les députés de la mouvance présidentielle ont quitté l'hémicycle en signe de protestation. Les jours suivants, Bongo Noir, le premier ministre, présente la démission de son gouvernement au président de la République. Mais Pascal Lissouba lui demande de poursuivre sa mission. Le 17 novembre, s'appuyant sur l'article 81 de la Constitution, Pascal Lissouba dissout l'Assemblée nationale.
Si l'Assemblée nationale a juridiquement le droit de renverser le gouvernement pour un oui ou pour un non, la portée politique de l'acte nous interpelle tous. Il est clair que cette situation ne saurait durer. Après avoir reçu la démission du gouvernement et pris acte, et après avoir conféré avec les forces vives de la nation et recueilli leurs divers avis, y inclut celui du président de l'Assemblée nationale, je sollicite que le peuple souverain tranche. C'est pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution, j'ai décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale issue des scrutins du 21 juin et du 5 juillet 1992. Dans l'intervalle, le gouvernement demeure en place.
Pascal Lissouba demande au gouvernement Bongo Noir de gérer les affaires courantes jusqu'à la tenue des élections législatives anticipées prévues dans les 45 jours. Dès le lendemain, l'opposition déclare le décret de dissolution de l'Assemblée nationale anticonstitutionnel et de nul effet et invite les Congolais à la désobéissance civile. Les militants des partis de l'opposition élèvent des barricades dans certains quartiers de la capitale. Cependant, ces actes de désobéissance civile ont une portée limitée. Une dizaine de jours après la dissolution de l'Assemblée, Denis Sassou Nguesso, Bernard Colella et Tister Tshikaya tiennent un meeting sur le boulevard des armées. Les principaux dirigeants de la coalition de l'opposition et apparentés dénoncent la dissolution de l'Assemblée nationale. Dans la matinée du 30 novembre, l'opposition organise une marche dite pacifique sur le palais présidentiel pour exiger le rétablissement de l'Assemblée nationale avec la nomination d'un premier ministre issu de ses rangs ou la démission du président de la République, tout simplement. À quelques centaines de mètres du palais, rond-point du centre culturel français, des membres de la sécurité présidentielle ouvrent le feu sur les manifestants et font droit mort. La manifestation avorte, mais les esprits s'échauffent. Joseph Wabare Mariotti, ancien ministre de la Justice.
En 93, moi j'étais... Il y a eu une rumeur qui a couru, selon laquelle, les trois victimes qui sont tombées au centre culturel français, dans la marche de l'opposition qui venait des opposants qui venaient de Bakongo, il y a une rumeur qui a couru à l'époque, comme étant victimes des coups de feu, ils sont partis du bureau où je travaillais au ministère de l'Intérieur. Parce que avant d'être nommé délégué général à la justice dès la victoire, moi j'étais pendant une petite séquence temporelle directeur du cabinet du ministre d'État, Méry Martin. Et lorsqu'il y a eu les événements de 93 au centre culturel français, il y a une rumeur qui a eu, alléguant que les trois victimes ont été tuées par des balles partant du cabinet du bureau où je travaille. C'était faux. C'était absolument faux. Absolument faux. En tout cas, moi, je refuse, je rejette totalement cette grossièreté, ce mensonge, parce qu'il n'en était pas du tout question. Je ne sais pas d'où sont venus ces coups de feu qui ont tué les trois victimes, qui sont tombés au centre culturel français. Ils ne sont pas partis du bureau où j'étais. La séquence temporelle où j'étais directeur de cabinet du ministre d'État Mbéry pendant un moment.
Deux jours après cette tragédie, le chef d'état-major des forces armées congolaises, le général Mokoko, réunit au palais de congrès les dirigeants des deux camps et leur enjoint de trouver un accord. Le 3 décembre 1992, Yombi Opango pour la mouvance présidentielle et Bernard Kolela pour l'alliance URD-PCT et apparentée signent un accord de sortie de crise sous l'égide du haut commandement militaire. L'Assemblée nationale demeure dissoute. Les élections législatives anticipées sont organisées par une commission indépendante, la CONOCELA, qui sera présidée par un membre de l'opposition, secondé par un membre de la mouvance présidentielle. Un gouvernement d'union nationale composé de 60% des ministres issus de l'opposition et de 40% du camp présidentiel va conduire les affaires publiques jusqu'à la publication des résultats des législatives. C'est sur cette base que le même jour, Pascal Lissouba nomme Claude-Antoine Dacosta au poste de Premier ministre. Avec une telle composition, un gouvernement aussi hétéroclite, aussi divisé, il ne parvient naturellement pas à créer une cohésion gouvernementale. Pas de conseil des ministres possible dans cette situation. Le gouvernement, déjà divisé, doit faire face à un souci de taille. En mars 1993, il doit déjà 7 mois d'arriérés de salaire aux travailleurs congolais. Les caisses sont vides. Acculé par des fonctionnaires terrassés par le fameux SIDA, acronyme de salaire insuffisant et difficilement acquis, Pascal Lissouba doit réagir vite. Difficile dans ces circonstances de se faire entendre. C'est à ce moment que Pascal Lissouba se tourne vers Elf Congo, la compagnie française, pour solliciter une avance sur recette de son pétrole. Il faut dire qu'au Congo, depuis la découverte de ce précieux minerai, mais surtout depuis 1979, Elf fait la pluie et le beau temps. C'est l'outil qui, en finançant les partis politiques et certains de ses dirigeants, maintient le pays sous dépendance. À cette date-là, vous en étiez le patron, Loïc Lofleur-Préjean. C'est vers vous que Pascal Lissouba se retourne au mois de mars 1993 pour une avance sur recette de 200 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA. Vous allez répondre négativement à sa demande. Vous refusez de lui donner cet argent, cette avance. Pourquoi est-ce que vous dites non à sa requête, Loïc Lefleur-Préjean? Était-il déjà pour vous un adversaire?
Pas du tout. Donc ça, je pense que c'est complètement faux, même pire que faux. Bon, je suis pris entre le marteau et les enclumes. Les enclumes étant aussi bien Bongo que Sassou Nguesso et que, à l'époque, M. Balladur qui arrive au gouvernement et à qui on dit oui, M. Lefebvre-Prigent a manipulé les élections. Lorsque j'arrive à Brazzaville pour voir le président nouvellement nommé Lissouba, Lissouba me dit de l'ancien président est un voyou, je ne veux pas que vous alliez le voir. Je dis, excusez-moi, monsieur le président, mais vous êtes chez vous, mais moi, je suis président d'Elf et je suis aussi chez moi, et je fais quand même ce que je veux dans votre pays, en ce qui concerne mes amis. Alors, je peux aussi partir définitivement du Congo, si vous voulez, mais si vous voulez que je reste, il faut me laisser libre. Il est à Mpila, et vous aurez un char d'assaut devant le
domicile.
Le domicile. Et je dis à ce moment-là, je suis désolé, mais je passerai outre le char d'assaut et je m'en vais en voiture en conduisant moi-même vers Sassou Nguesso. Qui, lui, me dit, Lissouba avait un accord avec moi, il n'a pas retenu d'accord. On devait avoir 7 personnes dans le gouvernement, on en a que 3. J'ai pas pu les choisir. Enfin bon, tout un cirque à l'africaine. Et donc, je reviens. Lissouba est absolument furieux contre moi en disant que j'ai transgressé son point de vue ce dont je t'avais averti, et donc des relations se tendent entre lui et moi, comme entre moi et Sassoon Nguesso, puisque Sassoon Nguesso, visiblement, a manœuvré de telle façon qu'il a mis Dissouba en position difficile, voulant rester non pas un des deux dirigeants du pays, mais le dirigeant du pays, et considérant Dissouba comme quelqu'un de rien.
Le décor est donc planté. Pascal Dissouba ne bénéficiera pas du précieux soutien d'Elf Congo, ce qui hypothèque considérablement ses chances de se sortir de cette situation. Mais il n'est pas homme à se laisser influencer ou à se faire imposer des solutions auxquelles il n'adhère pas. Puisque Elf ne veut pas l'aider, il a sa petite idée pour trouver de l'argent pour payer les arriérés de salaire des fonctionnaires, comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Pascal Dissouba. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play.
Archives d'Afrique. Le jeu.
Voici donc venu le moment du jeu pour gagner le coffret Archives d'Afrique. Mais je voudrais féliciter les milliers d'entre vous qui avez joué la semaine dernière. Vous étiez nombreux à avoir reconnu l'auteur de ces propos.
Quand j'ai essayé d'écrire un petit bouquin, les Talaros étaient ceux qui ont tremblé, tout ce monde-là. Mais je n'ai rien dit, je suis encore prêt à écrire.
Il s'agissait, et vous êtes nombreux à l'avoir reconnu, du président Omar Bongo Ondimba, qui a dirigé le Gabon de 1967 à 2009. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et les 5 premières bonnes réponses sur notre messagerie WhatsApp sont Soumaoré Yaya, à Abidjan en Côte d'Ivoire, Mamadou Ba, à New York aux États-Unis d'Amérique, Sidibé Mamadou David, d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Yannick Amedome Mindiane, à Lomé au Togo, Olive Nkera, à Kinshasa en République démocratique du Congo, Oluwashola Ogudele, à Pobé au Bénin, Parfait Zosu, à Noisy-le-Grand en France, Oumarou Traoré à Ouagadougou au Burkina Faso, Ouedraogo Aimé Maker à Ouagadougou au Burkina Faso, Nganga Kole à Pointe-Noire au Congo. Voilà pour les gagnants de la semaine. Cette semaine encore, vous avez la possibilité de gagner les coffrets Archives d'Afrique. Cette fois encore, il s'agira du volume 1 qui compte 4 personnages marquants de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Amadou Ahidjo du Cameroun, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, Sékou Touré de Guinée et Séné Kounché du Niger. Alors, à vos téléphones et à vos ordinateurs pour dire qui est l'auteur de ceci.
Vous savez chanter Barre un petit coup, hein? Chanter. Vous ne savez pas, on dit, hein? Barre un petit coup, c'est agréable.
Qui s'éclate ainsi dans cette chanson? Trop facile. 10 coffrets Archives d'Afrique, volume 1. La vidéo a gagné pour les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et 5 autres coffrets pour les 5 premières bonnes réponses à notre messagerie WhatsApp, dont les coordonnées sont si vous appelez de l'étranger.
33 6 08 72 23 92. Notre numéro WhatsApp 33 6 08 72 23 92.
Et si vous appelez de France?
06 08 72 23 92.
Alors, à vos téléphones et à vos ordinateurs, surtout n'oubliez pas de laisser vos noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone. Une réponse sans coordonnées est automatiquement éliminée. Vous pouvez évidemment continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Une semaine d'actualité.